Le cessez-le-feu en place depuis le 7 avril dernier semble tenir entre l'Iran et les États-Unis malgré les tensions autour du détroit d'Ormuz. Analyse de cette situation globale autour des négociations avec Daniel Haber. Il est comme d'habitude au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors évidemment, on va parler de la situation au Moyen-Orient et on va essayer de prendre un peu de recul sur ces derniers jours depuis le cessez-le-feu le 7 avril. Un cessez-le-feu qui semble plutôt bien respecté, mais la situation autour du détroit d'Ormuz fait encore parler. On a vu la marine américaine qui a annoncé fermer le détroit. Comment est-ce que vous analysez cette attente dans les négociations globales?
En fait, si on veut comprendre la situation actuelle, il faut prendre en compte deux réalités. La première, c'est que on a changé de guerre. On peut dire ça autour de l'époque du cessez-le-feu, mais ça avait commencé un petit peu avant. C'est plus la même guerre. Et donc la deuxième réalité, c'est que puisque c'est plus la même guerre, les objectifs, les buts de guerre ne sont plus les mêmes. Alors, essayons d'entrer dans le détail. Le début de la guerre, c'est le 28 février. Cessez-le-feu, c'est en gros 5 semaines après. Ces 5 semaines de guerre, c'était celle des États-Unis. C'est eux qui ont pris l'initiative le 28 février d'attaquer l'Iran. Israël étant plutôt en appui par son information et par d'autres moyens. Mais on a vu les Américains, au fond, assumer la responsabilité de la guerre. C'était leur guerre. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont procédé à la plus forte mobilisation militaire avec des porte-avions, des escadres, des B-2 venus de tous les coins. Donc, une immense mobilisation, même si elle est insuffisante pour venir à bout de l'Iran. C'est une très grosse mobilisation et Israël n'a fait au fond qu'accompagner, en tout cas c'est la lecture qu'on peut en faire, d'une part par évidemment le renseignement de terrain et aussi par des actions très ciblées faites par l'aviation israélienne contre des cibles militaires précises et surtout contre le leader du régime, avec évidemment l'élimination quasi immédiate du guide, hein, du Führer de l'Iran. Je dis ça parce que beaucoup de commentaires occidentaux, beaucoup de commentateurs occidentaux essaient d'expliquer que c'est une guerre israélienne et que ça sert uniquement les intérêts d'Israël et qu'en fait, comme certains le disent, Israël mène les États-Unis par le bout du nez. Ça, ce sont des commentaires à la fois anti-israéliens et quasiment antisémites. C'est l'inverse qui est vrai, c'est la guerre américaine. Et depuis le cessez-le-feu, ce qu'on voit apparaître clairement, en fait, mais ça a commencé évidemment bien avant, c'est qu'en fait, il y a deux guerres parallèles qui sont plus du tout les mêmes. C'est une guerre qu'Israël mène essentiellement contre le Hezbollah. C'est la véritable priorité d'Israël, c'est le Hezbollah, la protection des populations du nord d'Israël, la riposte aux attaques du Hezbollah et l'espoir que ce cessez-le-feu de l'année dernière, qui a jamais été vraiment mis en œuvre par le Hezbollah, puisse vraiment se mettre en place. On va en reparler un peu plus tout à l'heure. Mais quant aux États-Unis, c'est eux qui gèrent la situation en Iran et cette situation a changé aussi. Le théâtre, c'est plus l'Iran, c'est le détroit d'Ormuz. Un théâtre beaucoup plus limité en taille, tout simplement pour les deux raisons qui font qu'on a changé de guerre, c'est que finalement en Iran même, il y a plus de cibles militaires, ni même de cibles de personnalités qu'on pourrait identifier et qui pourrait justifier qu'on essaie de les détruire. L'essentiel a été fait et surtout. L'Iran, en s'en prenant au détroit d'Ormuz, en le privatisant, en le fermant en partie, en prenant en fait le monde en otage, en imposant même un péage dans le détroit d'Ormuz, a changé donc la face de la guerre et l'Iran a au fond mondialisé le conflit en créant un choc pétrolier et en initiant ce qui peut être une crise économique mondiale. Donc, c'est ça qui a changé. Et donc, par rapport à ce changement de guerre, cette nouvelle réalité opérationnelle, on voit que les objectifs, finalement, ne sont plus les mêmes. L'objectif initial des États-Unis et d'Israël, c'était le changement de régime. Il n'a pas eu lieu. On peut dire qu'il n'a pas encore eu lieu, ça peut arriver. Les nouveaux dirigeants qui ont remplacé ceux qui ont été éliminés sont plus jeunes, plus radicaux, moins rationnels encore. Et en même temps, on a vu que la gestion des opérations du côté de l'Iran a été très fortement décentralisée. Et puis globalement, on peut dire que le régime, au fond, a déjà changé. C'est plus un régime religieux, c'est un régime militaire. Donc, si vous voulez, par rapport à cette nouvelle réalité, l'objectif est désormais, au fond, pour les Américains de sortir du conflit, si possible par le haut, et pour Israël d'en finir avec le Hezbollah.
Alors,
Et donc, si vous voulez, pour l'ensemble du reste du monde qui est spectateur, c'est d'éviter une crise économique mondiale.
justement, éviter une crise économique mondiale, selon vos mots, Daniel Abert, quelles sont les perspectives à ce conflit?
Si vous voulez, il y a deux négociations, puisqu'il y a deux guerres, il y a deux négociations qui sont en cours. Une où Israël négocie, ça a commencé hier à Washington, avec le Liban. C'est la première fois que Israël, en tant qu'État, négocierait, si ça avance, avec un Liban en tant qu'État-nation, une première. Du côté américain, ils tentent de négocier avec l'Iran. On a vu que les premières tentatives n'ont pas été à Islamabad, n'ont pas été très très positives. C'est parce que au fond, il y a un fossé entre les attentes des deux parties. L'Iran veut essentiellement la levée des sanctions. Quant aux Américains, ils veulent l'abandon du programme nucléaire et évidemment la liberté de navigation, non seulement d'ailleurs dans le détroit d'Ormuz, mais aussi sur la mer Rouge, contrôlée plus ou moins par les Houthis, et plus largement la liberté de navigation dans le monde entier. Et c'est ça qui permettrait d'éviter la crise mondiale. Alors, les perspectives, c'est assez difficile à dire, mais ce qu'on voit surtout, c'est que la guerre n'a jamais été vraiment une guerre classique. On a souvent comparé ça à une partie d'échecs, et c'est vrai, c'est plus une partie d'échecs qu'une guerre, parce que si une guerre, elle détruit beaucoup de soldats et beaucoup d'hommes. Ici, c'est une guerre où il y a peu de morts. Si on le compare surtout au conflit précédent, c'est surtout des destructions, destructions militaires, des destructions industrielles, des destructions pétrolières. Et puis, on a vu que l'initiative la plus sérieuse, aux conséquences les plus lourdes, ça a été le blocage filtrant du détroit d'Ormuz. Et pour les Américains, l'initiative finalement la plus spectaculaire, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est le blocage total du détroit d'Ormuz pour tous. Pour résumer la situation, que les Américains ont pris en otage les preneurs d'otages. Voilà. Donc, si vous voulez, toute l'idée de ce jeu d'échecs, c'est que la pression économique mondiale fasse pression à travers les opinions publiques et à travers les positions de tous ces États. De tous les autres États qui sont à la fois impactés et spectateurs pour peser plus ou moins sur l'autre partie et aider aux négociations. Voilà un peu la situation actuelle.
Très rapidement, Daniel, parce qu'on arrive à la fin de nos conversations, quelles sont les options?
Écoutez, pour l'Iran, l'option principale, c'est sauver le régime, éviter la reddition sans condition. Et au fond, leur objectif, c'est de retourner à l'accord de 2015, celui d'Obama. C'était un très mauvais accord, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'avaient accepté. Et donc, c'est ce qu'ils essaient d'accomplir aujourd'hui. Pour les Américains, obtenir un nouvel accord complètement différent de l'accord de 2015, parce que le retour à l'accord de 2015, c'est un échec terrible pour Trump. Donc c'est un nouvel accord qui est la renonciation au programme nucléaire, le contrôle des armements et des proxys, et en fait une nouvelle politique extérieure pour l'Iran. C'est ça le désaccord, et donc le fossé entre les deux est immense. Et il va falloir beaucoup de temps et beaucoup d'efforts de la communauté internationale pour, au fond, combler ce fossé.
Merci beaucoup Daniel Abert d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et puis on se retrouvera plus rapidement que prévu, hein, un peu moins d'une semaine car ce sera déjà lundi. À lundi.
À lundi prochain.